Bonsoir à toutes et tous. Nous sommes réunis pour recevoir deux auteurs sociologues, Luc Boltanski et Arnaud Esquer, pour leur dernier ouvrage, Enrichissement, une critique de la marchandise. Alors, je vais tout d'abord très rapidement vous présenter. Introduire l'ouvrage, mais très rapidement, et puis ensuite je vous poserai quelques questions. Alors, nous avons deux chercheurs qui sont tous les deux, qui ont en commun de s'intéresser à la manière dont la réalité est construite par les acteurs, mais ça c'est le cas de tous les sociologues, et à la manière dont elle est plus ou moins stabilisée à travers des catégories, des dispositifs, des institutions. Alors, Arnaud Esquer s'intéresse à cette construction plus ou moins stabilisée de la réalité à travers l'étude d'objets qui sont à la frontière, précisément, de cette réalité, qui conduit à repenser ces frontières. Donc, vous avez travaillé sur les témoignages concernant des événements extraterrestres, l'usage massif de l'astrologie de nos jours, le statut des corps morts et les croyances religieuses désignées comme sectaires. Et c'est votre première collaboration avec Luc Boltanski, alors qui, évidemment, s'intéresse aussi à la manière dont cette réalité est plus ou moins stabilisée. Et d'ailleurs, vous aviez fait un magnifique ouvrage en 2012 qui s'appelait « Énigmes et complots », où vous mettiez en parallèle la naissance de la sociologie, de la police scientifique et du roman policier comme manière de stabiliser le réel dans un monde fin 19e, début 20e, qui était extrêmement exposé, précisément, aux théories du complot, dans la mesure où plus personne savait exactement ce qui se passait. Mais la sociologie de Luc Boltanski est une, alors je vais le dire, une sociologie critique, c'est-à-dire qui voit dans cette stabilisation du réel, au fond, des opérations de réduction qui sont faites pour l'essentiel par les acteurs dominants et en particulier par les acteurs qui animent le capitalisme. Ça me permet d'introduire l'ouvrage « Enrichissement, une critique de la marchandise » qui, de mon point de vue, est le tome 2 d'un ouvrage précédent qui s'intitulait « Nouvel esprit, le nouvel esprit du capitalisme » et qui se posait la question de savoir comment le capitalisme a-t-il pu survivre, d'une certaine manière, à l'immensité critique dont il avait été l'objet dans les années 60 et 70, hein, la contestation du taylorisme, du fordisme. Voilà. Et donc, il avait, avec Eve Capello, en travaillant sur les manuels de management, etc., il avait montré qu'en fait, le capitalisme avait cette capacité, au fond, à intégrer la critique, et en particulier cette critique artiste, et à transformer les demandes d'autonomie dans le travail à un management par projet. Voilà. Et donc, voilà notre capitalisme, au fond, capable, hein, d'intégrer la critique et de repartir d'un bon pas. Alors, d'une certaine manière, cet ouvrage Enrichissement revient de nouveau sur les déplacements que est en train de faire sous nos yeux le capitalisme. Quand je dis sous nos yeux, c'est pas évident parce que précisément l'objet de l'ouvrage, on va le voir, c'est de montrer ces déplacements qui n'apparaissent pas spontanément, dans la mesure où ils sont diffractés dans toute une série d'événements, d'objets, de pratiques. Et il me semble que l'objectif du livre, c'est de mettre un nom sur ce déplacement. Et ce nom, c'est enrichissement. D'où ma première question. Vous employez la notion d'enrichissement dans plusieurs sens du terme. Alors, au sens banal de s'enrichir, mais ça, s'agissant du capitalisme, on pouvait l'attendre, mais surtout au sens technique de marchandises qui seraient enrichies, comme on parle d'uranium enrichi. Et vous illustrez cela avec des exemples très éclectiques en apparence. Donc je cite, hein, le festival de la photographie à Arles, les couteaux Layol et le restaurant Bras en Aubrac, les montres suisses, les voitures anciennes, les lunettes de Sartre, le classement UNESCO des quais de Bordeaux, ça c'est moi qui le rajoute, mais ça fait partie de la chose. La collection Pinault à Venise, le magazine d'Air France. Alors, première question évidemment, est-ce que vous pouvez revenir sur cette notion d'enrichissement et en quoi ça peut rassembler, en une description de ce qui se passe sous nos yeux, cet ensemble très éclectique d'objets et de pratiques?
Oui, je vais rajouter une petite correction à ce que tu as dit tout à l'heure. C'est que nous avons fait précédemment deux petites corrections. La première, c'est que nous avons fait précédemment un petit livre, il y a 3 ans, qui est un petit livre de taille politique, en fait, qui s'appelle Vers l'extrême, qui a été publié en mai 2014 et dont je peux malheureusement dire, 3 ans après, qu'il avait un caractère tristement prémonitoire, puisqu'il s'agissait d'une analyse de la montée des modes de pensée venus de l'extrême droite et au-delà de l'Action française, en fait, des traditions françaises de la droite, de l'extrême droite, y compris dans le monde médiatique et dans le monde intellectuel. Donc je ferme cette première parenthèse. La seconde, c'est sur le rapport au nouvel esprit du capitalisme. Ça n'est pas le tome 2. Ce sont deux livres différents. Ça serait le tome 2 s'il s'agissait, le nouvel esprit du capitalisme a été publié en 99, s'il s'agissait d'analyser la même chose 20 ans après ou 15 ans après. En fait, le nouvel esprit du capitalisme avait un objet en grande partie différent, puisque ça partait de la production et de l'organisation de la production. Et effectivement, comme tu l'as rappelé, ça se basait sur des analyses de livres de management. Dans Enrichissement, nous abordons le capitalisme sous un autre rapport qui est quand même au moins aussi central, vient en premier dans le Capital de Marx, qui est celui de la marchandise, et donc celui de la circulation des marchandises, et celui, par conséquent, du commerce. Et une partie de notre matériel a été dans ce cas-là, non pas des livres de management, mais des livres de marketing.
Les exemples cités ont l'air très hétérogènes, mais le, enfin, disons, il y a un point commun entre tous ces exemples, c'est qu'on considère qu'ils ont été enrichis au sens où ils exploitent le passé via un récit, en fait, via un récit du passé, et c'est ce qui permet de les mettre en valeur. Donc c'est sous ce terme-là qu'on pense que des choses peuvent être enrichies. Alors, malgré tout, il faut distinguer dans l'énumération, on fait une distinction entre les choses elles-mêmes qui sont commercialisées, comme par exemple peuvent l'être des montres suisses ou peuvent l'être des vins de Bordeaux, par exemple, des bouteilles de vin, qui peuvent faire l'objet d'ailleurs de collections. On les distingue des lieux qui sont, eux, peuvent être patrimonialisés, comme les quais de Bordeaux dont on parlait, classés par l'UNESCO. Et parce que eux font venir les touristes, et donc une des activités centrales dans ce qu'on appelle l'économie de l'enrichissement, c'est aussi le tourisme, dont la France est la première destination mondiale, comme on le sait tous, et qui est extrêmement importante, et notamment dans une ville comme Bordeaux, qui développe par exemple le no-tourisme.
Donc, pour bien préciser, ce que les ressorts de l'enrichissement, donc ces deux choses que vous venez de dire, c'est d'abord la mobilisation du passé à travers une mise en récit. C'est ça. Et à partir de ce moment-là, ça peut concerner n'importe quel objet, d'une certaine manière.
Il faut peut-être préciser au fond la structure du livre pour nos futurs lecteurs qui sont là. Le livre a plusieurs dimensions que nous avons essayé d'articuler. Il y a une dimension historique qui porte sur, qui essaie de décrire et de nommer, parce que cette dimension, ce changement historique n'a pas été jusqu'ici nommé et n'est pas pris en compte par les organismes officiels comme l'INSEE, qui est un changement qui a affecté un certain nombre de pays d'Europe de l'Ouest et au premier chef le nôtre au cours des dernières décennies et qui a été marqué d'un côté par une désindustrialisation qui est très importante. Le nombre maximum de personnes employées dans l'industrie atteint un pic 1975, et ne cesse depuis de diminuer, ce qui entraîne un appauvrissement d'un certain nombre de régions qui étaient autrefois prospères, comme l'Est ou le Nord. Et puis, en parallèle, la montée d'une autre source d'enrichissement que nous cherchons à décrire et dont nous cherchons à montrer l'unité. Et cette source d'enrichissement apporte donc de la richesse par l'intermédiaire, pour simplement récapituler les domaines, du commerce du luxe, vendu soit sur place, soit à l'étranger, notamment dans les pays riches et aussi dans les pays émergents, comme la Chine, qui, comme vous le savez, achète largement les parfums français, etc. Les antiquités, l'art, la culture en général, qui est devenue un domaine très important, le patrimoine, la patrimonialisation, qui a été marquée, comme Piketty l'a bien montré dans son ouvrage, par un renchérissement très important du centre des grandes villes. Vous savez qu'un Parisien, y compris maître de conférence d'université, par exemple, peut maintenant très difficilement se loger dans le centre de Paris. Je ne sais pas ce qu'il en est à Bordeaux. Je n'ai pas regardé dans le détail, mais je pense qu'il y avoir des phénomènes un peu comparables. C'est le cas à Barcelone aussi, par exemple, où le tourisme, développement très important du tourisme, au point que vous avez maintenant dans les vieux centres comme Venise ou Barcelone précisément, des manifestations anti-touristes, parce que les habitants sont chassés des lieux d'habitation qui servent de Airbnb. Et puis, vous avez tout cet ensemble de nouvelles sources de richesses qu'il est très difficile de comptabiliser. On nous demande toujours, mais c'est quelle partie de la richesse nationale en France ? Je dirais que ça n'est pas à nous de le dire. Nous, notre objet, c'est de conseiller aux organismes comme l'INSEE ou les comptables nationaux de changer leur catégorie, d'abandonner des catégories économiques un peu obsolètes, comme la différence entre services et objets, et de chercher à cumuler et à comptabiliser des types d'activités qui ne sont pas non plus comptabilisables, en quelque sorte, dans les catégories actuelles de l'INSEE, entre quelqu'un qui est professeur d'université, qui est donc professeur d'histoire de l'art, par exemple, et quelqu'un qui fabrique des sacs en croco ou qui fait du design pour des produits modernes. Et donc, si vous prenez au niveau des quelques statistiques disponibles, qui sont celles du ministère de la Culture, la part des gens qui sont occupés dans ces domaines, elle a cru de façon considérable. Nous y reviendrons peut-être tout à l'heure, souvent d'ailleurs dans des conditions de vie extrêmement précaires. Et donc, effectivement, le point commun entre cette économie et l'économie industrielle qui a donné ses structures à ce qu'on appelle la science économique, c'est que l'économie industrielle s'attache à analyser la fabrication et la circulation de choses nouvelles, alors que cette économie, que nous appelons économie de l'enrichissement, fabrique de la richesse à partir de choses qui sont déjà là et dont certaines pouvaient avoir quasiment un statut de déchet. Et d'ailleurs, la plupart des choses magnifiques que nous voyons dans les musées ont, à un moment ou un autre de leur parcours, été considérées comme des déchets. Je vous renvoie au Cousin Ponce, par exemple, de Balzac, qui montre ça très bien.
Oui, c'est le cas de l'urinoir de Duchamp. Mais en fait, on peut dire que, dans la mise en perspective historique que vous faites, vous dites que la prospérité du capitalisme industriel, il s'est fait sur la production et la consommation de masse d'objets destinés à être déchets. Et d'ailleurs, c'est le renouvellement du parc automobile, des lave-linges, des téléphones, etc., qui fait sa prospérité. Et ce que vous expliquez, vous venez de le dire, c'est que cette production, en fait, aujourd'hui, s'est déplacée vers l'Asie, grosso modo, hein, pour l'essentiel. Et que, d'une certaine manière, cette économie de l'enrichissement qui s'intéresse à des objets déjà là,
au fond, serait une manière pour les capitalistes occidentaux, ou européens en tout cas, de continuer d'une certaine manière à tirer de la plus-value, faire du profit, donc à ajouter à une production, consommation de masse ayant un devenir déchet, cette nouvelle forme de production d'économie qui va leur permettre d'une certaine manière de sauvegarder la capacité qu'ils ont à produire du profit. C'est ça le cheminement historique ?
Oui, c'est-à-dire, c'est ça à grands traits, effectivement, le passage d'une économie. Pour des pays, comme la France ou comme l'Italie, où il y a le passage d'une économie dite industrielle, effectivement, à une économie que nous appelons de l'enrichissement, et qui est inégalement développée. Inégalement développé d'abord selon les pays en Europe et ensuite à l'intérieur d'un État selon les régions. Parce que tout à l'heure vous avez dit en fait n'importe quel objet peut être enrichi. Alors en réalité...
Y compris des déchets précisément. Alors,
des déchets peuvent être enrichis mais simplement il faut quand même malgré tout... pour qu'une région soit enrichie ou ce qu'on appelle ça des bassins d'enrichissement ou qu'un objet le soit, il faut malgré tout qu'il y ait un certain nombre de conditions qui soient remplies. Et on prend l'exemple, par exemple, de Salon de Provence, qui a été étudié par un historien qui s'appelle Stéphane Gerson, dans laquelle, en fait, il y a eu les plus grandes difficultés pour cette ville à se tourner vers une économie d'enrichissement parce qu'il n'y avait pas de figure qui permettait de le faire. Et donc, le récit en fait, du passé... avait toutes les peines à émerger parce que la figure principale était Nostradamus et que c'est une figure complexe en fait parce qu'il n'y a pas un grand récit, il n'y a pas eu un roman de Victor Hugo par exemple qui aurait mis en scène Nostradamus et donc à contrario on voit par exemple dans une ville comme Arles qui était une ville qui était très industrielle où ça s'est désindustrialisé. Comment cette ville en fait s'est entièrement tournée vers ce que nous appelons l'économie de l'enrichissement, à la fois en valorisant évidemment le patrimoine ancien et en faisant appel plus récemment, ou en tout cas en les donnant la place plus récemment à la fondation Luma, qui est une fondation donc qui s'est tournée vers l'art contemporain et qui a fait appel à Frank Gehry pour refaire ce qui s'est passé à Bilbao, une sorte de bâtiment qui est susceptible à lui seul de faire venir des touristes. Donc la ville d'Arles est un bon exemple parce que ça, on voit bien en fait la transformation et en termes de datation, c'est vraiment le moment clé où commence à se mettre en place de manière avec des mouvements qui sont convergents, on va dire, à partir des années 1980. Et puis, il y a des régions, évidemment, dans lesquelles ça augmente, où ça se met en place encore plus fortement ensuite. Mais disons, le basculement, c'est les années 70-80, en fait.
Et c'est ça qui vous permet d'opposer, au fond, à cette masse d'objets dont le devenir est celui du déchet, cette nouvelle forme d'existence qui serait le devenir collection. Au fond, qui serait l'antithèse, d'une certaine manière, puisque c'est des objets qui, au contraire, ne perdent pas de valeur avec le temps, mais à l'inverse, en gagnent précisément parce qu'ils n'ont pas vocation à devenir des déchets, mais des pièces d'une collection.
Oui, alors si vous voulez, ça renvoie donc aux différents aspects du livre dont j'évoquais tout à l'heure. La première partie historique... analyse ce changement dont j'ai rappelé économique très important en France parce que c'est aussi un changement dans les structures professionnelles de la population et qui a également des effets politiques et qui est au fond un effet local d'un changement beaucoup plus mondial. Combien d'analyser des gens comme Giovanni Arrighi ou des historiens de l'Écoubreder, des historiens de l'économie des occidentales des 70 dernières années, qui a été lié à la baisse des taux de profit et à des surcapacités dans la production industrielle des pays occidentaux, une des solutions ayant été la délocalisation dans des pays à bas salaire et où les classes ouvrières étaient peu protégées. Alors, et du même coup, si vous voulez, dans nos sociétés d'Europe de l'Ouest, vous avez toujours évidemment une économie qui fonctionne sur la vente d'objets matériels. Il y a jamais eu, c'est pas du tout le passage d'une société post-industrielle. On n'a jamais eu autant d'objets produits industriellement, comme tous les ordinateurs ou les téléphones que nous utilisons, mais ils sont fabriqués ailleurs. Et au fond, on a une diversification du capitalisme que nous appelons le capitalisme intégral, qui d'un côté continue à profiter du rapatriement en Occident de ces produits qui ont souvent été conçus en Occident mais fabriqués ailleurs, et qui tire profit de ce nouveau type d'objets enrichis qui, comme tu viens de le dire, font l'objet d'un autre type de valorisation. Alors, j'en viens à la seconde partie, en quelque sorte, de notre travail, qui, elle, n'est pas historique, qui est actuelle, qui dit, voilà, nous sommes tous plongés dans un univers de marchandises. Comment est-ce que nous nous y retrouvons dans cet univers de marchandises? Est-ce que l'on peut faire, en quelque sorte, une analyse de notre compétence, qui est inégale, certainement, à nous y retrouver dans le monde de la marchandise? C'est une compétence qui paraît tellement naturelle qu'au fond, on n'y pense pas. Mais imaginez, certains d'entre vous ont pu avoir cette expérience d'être dans un pays éloigné, par exemple dans un bazar au Maroc ou en Turquie, devant des objets, au fond, dont on ne connaît pas bien la qualité, dont on ne connaît pas bien la provenance, dont le prix n'est pas affiché, dont on ignore les prix relatifs, et où on se sent perdu. Donc, si vous voulez, ça suppose de comprendre comment et pourquoi chacun d'entre nous est capable de se retrouver dans le cosmos immense de la marchandise. Alors, ce que nous appelons marchandise, c'est, dans un sens très précis à ce terme, c'est n'importe quel objet, quand il change de main, en étant, et qu'un prix lui échoit dans ce moment où il change de main. Et donc, notre argument, pour revenir à ta question, est que pour différents types de marchandises, il existe différentes formes de mise en valeur qui vont développer des argumentaires très différents de façon à critiquer ou défendre le prix de ces marchandises.
Alors, en fait, on est parti d'une interrogation très simple. C'est pourquoi est-ce que là, en fait, c'est pas des choses différentes, c'est la même chose, comme cette petite bouteille ou le verre ou ce stylo. Pourquoi est-ce que la même chose, si on la considère dans ce qu'on appelle la forme standard, qui est la forme de référence habituelle, en fait, de l'économie industrielle, quand elle est neuve, son prix est le plus élevé, et ensuite, quand elle est d'occasion, son prix est plus bas. Mais si, en fait, on dit que c'est une bouteille de collection qui est destinée à aller au Mucem, où elle aurait toute sa place à Marseille, en tant qu'objet représentatif de notre prélèvement ethnologique de notre vie actuelle, à ce moment-là, elle va acquérir un prix qui, d'ailleurs, dans un musée, sera un prix d'une valeur d'assurance, en fait. Et le prix, si en plus on lui associe un récit en disant que c'est la bouteille avec laquelle Éric Massé a bu, son prix va considérablement augmenter avec le temps.
Lunettes de Sartre, en fait.
Voilà. Et donc la question, c'est pourquoi est-ce que le même objet, son prix peut baisser, son prix peut augmenter? Alors, en fait, la manière dont on a résolu ce problème a été de penser que ce type d'objet, pour que le prix augmente, il s'appuie sur une forme de mise en valeur qui correspond au type de la collection. Parce que dans une collection idéale, il y a une totalité avec un ensemble des objets et chacun est mis en valeur l'un par rapport à l'autre par une petite différence, ce qui fait qu'en fait une collection est toujours une collection de différences. Alors ça a des choses importantes par rapport à la question du capitalisme et par rapport à la question de la culture et des objets culturels, parce que ça veut dire que contrairement à une idée reçue, quand le capitalisme, on va dire, investit les objets culturels, ou les, en réalité, pour pouvoir faire du profit, il a besoin d'exploiter des différences, parce que s'il n'y a pas de différence, en fait, il ne peut pas faire de profit, de plus-value marchande. Donc ça renverse complètement en fait, la manière dont en général on pense que ça uniformise. En réalité, ça n'uniformise pas, parce que si ça uniformise, ça empêche de faire du profit.
Mais juste une question de curiosité. Cette économie du luxe, des choses très chères, des paquebots, des grands hôtels, on peut dire d'une certaine manière, ou même des collections d'art, on peut dire que ça préexistait pratiquement, ou que c'est contemporain du capitalisme, avant qu'on connaisse la fabrication standard destinée à être du déchet. Il y a toujours eu du luxe, il y a toujours eu un marché du luxe. La bourgeoisie du 19e siècle faisait des collections, avait des trains de vie somptueux. Donc qu'est-ce qui différencie ce que vous appelez l'économie de l'enrichissement de cette économie du luxe qu'on connaît depuis qu'il existe des classes dominantes?
Oui. Il y a plusieurs questions dans ta question. Une question est discutée par les historiens du capitalisme. Et je vais y revenir dans 5 minutes à propos de Braudel. L'autre question qu'on nous pose souvent, qui est bien sûr, il y avait des... J'ai pas cité le cousin Ponce tout à l'heure. Bien sûr, il y avait des collectionneurs au 19e. Il y avait avant des cabinets de curiosité, mais il est très probable que la collection systématique, qui est née d'ailleurs dans les sciences naturelles, se crée réellement au 19e. Et cette collection systématique a pour effet comme l'a rappelé Arnaud, de se définir par rapport à des totalités idéales dont il faut avoir tous les spécimens. Si vous faites une collection de stylo Waterman, par exemple, il faut avoir tous les spécimens depuis le premier de 1895 jusqu'à cette version banale du stylo contemporain. Et donc, vous avez des manques et le prix des choses sont liés à ces manques. Et il y a une logique de l'accumulation et de la vente dans le cas des collections que nous étudions. Un second élément est le fait qu'un objet soit valorisé parce qu'il a été lié à une personne. Et ça, c'est un caractère très, très général des objets de l'économie de l'enrichissement. C'est le fait que leur valeur leur tient de la proximité physique corporelle avec une personne. Si vous prenez par exemple la veste du général de Gaulle qui est exposée en cuir au musée de la guerre, sa valeur et son prix d'assurance, on va dire, est très élevé, et beaucoup plus élevé que celui de n'importe quelle veste de cuir vintage qu'on va trouver aux puces de Vanves. Alors vous allez me dire, ah mais il y a un précédent, c'est les reliques. C'est une remarque qui a souvent été faite par les historiens, mais on essaie de montrer dans notre livre que la logique de fonctionnement des reliques n'est pas tout à fait la même chose que la logique de fonctionnement des robes ayant appartenu à des stars, etc.
Notamment, juste un point simple pour faire comprendre cette différence, c'est qu'une relique, quand vous la divisez en deux, les deux morceaux sont d'égale valeur, Un tableau de mètres, si vous le coupez en deux, les deux morceaux ne valent pas la même chose.
Sauf si le geste est lui-même artistique. Parce qu'on peut pousser la logique de l'enrichissement au second degré.
Et donc, si vous voulez, l'autre problème, c'est que bien sûr que ces choses existaient, mais de façon marginale. Vous prenez Jacques Doucet. Il est devenu très célèbre en tant que... Il y a une bibliothèque Jacques Doucet, comme vous savez. Il a sponsorisé, comme on dit aujourd'hui. Il a été un mécène d'écrivains et d'artistes. Mais ça ne faisait pas partie de son business au même titre que Pinault et Arnault, dont l'investissement, qui viennent d'ailleurs de l'économie industrielle, et dont l'investissement désormais dans l'industrie du luxe se supporte et sans arrêt en interrelation avec leur engagement dans l'art contemporain et la manifestation médiatique de cet engagement dans l'art contemporain qui apporte en quelque sorte une richesse spécifique aux objets qu'ils vendent dans l'industrie du luxe, qui, il faut le dire entre parenthèses, sont désormais très rarement des objets artisanaux, comme l'image continue à en être présentée. Vous avez quelques spécimens qui sont faits de façon artisanale, et les objets sont en large partie fabriqués de façon délocalisée également. Mais ils sont rapatriés dans des marques qui bénéficient d'un prestige ancestral, qui bénéficient de la marque France, comme disent y compris les gens au budget qui s'occupent de ce type d'économie, de façon à produire des fabriques, vendre des choses qui soient valorisées par les touristes ou valorisées dans des pays où cette marque France est une garantie d'histoire, d'ancienneté, etc.
Alors, vous restez sociologue, et dans la deuxième partie de l'ouvrage, vous en venez aux conséquences sociales, disons aux effets sociaux de cette transformation du capitalisme. Et vous soulignez à quel point, du point de vue des classes sociales et des territoires, en fait, il y a deux modèles. On serait passé d'un modèle à un autre. Le premier modèle, disons, industriel, consommation de masse, production de masse, qui avait pour capacité, disons, de vivre de l'exploitation du travail des travailleurs, qui évidemment était exploité, mais néanmoins qui participait de cette production. Et ce que vous dites, c'est que cette production est en partie ailleurs. Ce qui reste, c'est l'économie de l'enrichissement. Et ce que vous dites, c'est que cette économie de l'enrichissement, eh bien, elle n'a plus besoin des pauvres. Elle n'a plus besoin de ces armées de travailleurs. Elle n'a plus besoin de ces territoires anciennement industrialisés, maintenant désindustrialisés. Et donc, ça remet en scène toute une nouvelle économie des inégalités, d'une certaine manière, entre ceux qui profitent de cette économie de l'enrichissement, et ceux qui en sont les laissés pour compte, et ça vaut autant pour les groupes sociaux que pour les territoires. Vous pourriez revenir sur ces conséquences sociales de cette nouvelle économie ?
Je voudrais revenir d'abord sur la première phrase que vous avez prononcée, vous restez sociologue, parce que un des enjeux du livre, ça a été de mettre l'accent sur les choses qui au fond ne sont pas si et donc de les rapatrier ou en tout cas d'avoir une démarche sociologique qui permette en fait de les étudier tout en maintenant une distinction entre les humains et les choses, parce qu'une des grandes tendances de l'anthropologie qui elle s'est emparée des choses, ça a été de traiter les choses comme des personnes en fait. Et c'est un point important du livre par rapport à l'entreprise qu'on a souhaité faire. Et l'autre point, c'était de rapatrier les prix, qui, eux, en fait, étaient pris par, si on peut dire, par l'économie, dans la sociologie. Parce que on se repère tous avec des prix, tout le temps, en permanence. Et donc, ces deux types d'opérations importantes qu'on considère comme sociologiques, et non pas seulement aborder les catégories de personnes qu'on a mis en place effectivement ensuite. Alors, sur les transformations sociales, on distingue en fait des catégories, en utilisant notamment une distinction riche-pauvre qu'on ne fiche pas de manière trop forte, mais comme une opposition. Et on montre en fait que cette économie de l'enrichissement, elle bénéficie d'abord aux riches, mais que pour la faire fonctionner, il y a tout un ensemble d'autres catégories nécessaires, notamment en fait des gens qui vont servir pour le gardiennage, pour l'entretien, pour le nettoyage, pour
vous appelez les serviteurs.
Les serviteurs. Et puis il y a évidemment ce qui est central, les travailleurs de la culture, les professionnels qui travaillent dans le monde de la culture et qui vont eux servir notamment et les créateurs à enrichir les objets. Alors juste un exemple pour vous donner une illustration des transformations sociale que ça opère. Si vous prenez une région comme l'Aubrac,
vous consacrez un chapitre entier.
Si vous voulez, dans les années 60, quand il y a une mission qui est faite, qui s'appelle RCP par le CNRS, à ce moment-là, les personnages importants du village à l'Aïeul, c'est le prêtre, le notaire, l'instituteur. Aujourd'hui, il n'y a plus de prêtres, et les personnages importants, ce sont les frères Brass, qui sont des cuisiniers, qui font une cuisine réputée, qui exploitent le terroir, quelqu'un qui s'occupe de la coopérative fromagère, qui fait du laïol, du fromage, en valorisant aussi le passé. Et donc, ce sont des gens qui sont des entrepreneurs, mais qui prennent en charge aussi une histoire locale, leur récit du passé, et donc à des intérêts collectifs. Et donc c'est un mélange, et qui peuvent aussi avoir des responsabilités politiques, comme c'était le cas pour la personne qui a dirigé la coopérative fromagère. Et donc on voit bien que c'est un tout autre type de figure locale, en termes de notable, qui a émergé et qui n'a rien à voir avec celle qui était des années 60. Donc, il y a une transformation extrêmement importante qui s'est produite.
Et alors, qui sont les laissés pour compte, pour le coup, de cette nouvelle économie? Qui profitent aux riches, on l'a vu, à quelques serviteurs et pour lesquels travaillent nos créateurs?
Les laissés pour compte de cette économie, ils sont faciles à imaginer. C'est les régions, les territoires qui ont été industrialisés et qui sont livrés à la friche, qui ne peuvent pas tous être transformés en musées d'art internationaux. C'est les paysages industriels, de culture industrielle. Et c'est, je dirais, les personnes, tout le monde a un passé, mais les personnes dont le passé est difficile à valoriser parce qu'ils sont émigrés et donc parce que leur passé n'est pas censé être une richesse historique, commercialisable, si je puis dire. Vous êtes un agriculteur de montagne à côté d'une église romane. Vous pouvez facilement faire le lien entre l'agriculture, la tradition, l'église romane, etc. Si vous êtes fils ou petit-fils de travailleurs maghrébins à côté d'une mine désaffectée, la mise en valeur de ce que vous êtes et de ce que vous faites dans le cadre d'une économie de l'enrichissement sera beaucoup plus difficile. Et on peut suivre là-dessus les analyses des géographes qui montrent notamment comment vous avez des territoires qui étaient des territoires comme ceux, par exemple, de la Haute-Provence, hein, qui étaient des... Moi, je connais des régions comme ça autour de Uzès, par exemple, qui étaient quasiment abandonnées et désertifiées il y a 40 ans, et qui maintenant sont assez florissants autour de résidences secondaires ou de résidences de gens qui travaillent dans des métropoles européennes, mais qui passent une grande partie de leur temps là, et avec autour des gens qui travaillent dans la maçonnerie pour l'aménagement, des décorateurs. Et j'ai rencontré une fois quelqu'un qui se disait antiquaire d'arbres, qui vendait des oliviers déjà tout poussés, etc. Donc vous avez toute une économie, une autre économie qui se met en place, qui est très fragile, hein, et qui n'empêche pas, comme on le voit bien dans le cas d'Arles, qui a le plus fort taux de chômage de toute la région PACA, le fait que ça absorbe très difficilement une grande partie de la population. Mais je voulais rajouter un petit mot pour toi en tant que collègue, que sociologue, et pour les sociologues qui peuvent avoir été intéressés par cette discussion dans l'assistance. C'est qu'au fond, je vais faire un peu de pub pour notre livre. Il peut se lire à plusieurs niveaux d'engagement, si je puis dire. Il y a des parties qui sont très descriptives, sur les changements que je viens de mentionner. Et puis, il y a des parties un peu plus théoriques, mais qui peuvent aussi intéresser des gens qui, du fait de leur profession ou de leurs études, sont engagés dans les débats actuels des sciences sociales. Et deux de ces problèmes, deux de ces questions qui nous ont particulièrement attachés ont été d'une part la question du rapport entre sociologie et économie. Souvent les sociologues et les anthropologues sont très mal à l'aise par rapport à l'économie. Soit au fond ils le laissent de côté, considérant qu'il y a une espèce d'autonomie des échanges symboliques par rapport aux échanges matériels de biens. Et nous, comme Arnaud l'a bien rappelé, nous avons voulu repartir dans le style d'Apadouraï des objets eux-mêmes et de leur vie, de leur circulation. Vous avez aussi des sociologues qui se dépêchent de transposer des schèmes économiques à la sociologie, ce qui ne donne pas toujours des très bons résultats, en important d'habitude d'ailleurs des modèles nés aux États-Unis dans les années 60-70. Et puis vous avez des sociologues critiques qui parfois jettent l'anathème sur l'économie, comme si l'économie était une science un peu illusoire, lobo economicus, qui laisserait échapper la teneur proprement humaine que la sociologie restituerait. Alors c'est pas ce qu'on a essayé de faire. On a essayé de faire une sociologie dans l'économie, si je puis dire. Et effectivement, de casser ce partage entre l'économie s'occupe des prix et la sociologie s'occupe des personnes, des goûts, etc. Et en considérant que dans la construction sociale de la réalité, pour reprendre ce schème, il n'y avait pas seulement du langage et qu'au fond, la réalité, notre réalité la plus quotidienne, elle est faite de prix relatifs. Le second point qui peut intéresser des spécialistes, on va dire, des gens plus spécialisés dans nos disciplines, est sur la question de type d'approche théorique et notamment du rapport entre une approche s'inspirant de la pragmatique dont nous avons été, on peut dire, parmi les premiers... à nous en soucier il y a maintenant une trentaine d'années et qui aujourd'hui est assez largement reconnu, et puis d'autres approches comme des approches structurales. Et un des objectifs du livre, c'est de revenir au structuralisme qui a fait l'objet de beaucoup de critiques au cours des 10 dernières années, 15 dernières années, et d'essayer de montrer qu'on peut associer des approches pragmatistes et des approches structurales. Et notre approche pragmatiste, nous l'appliquons d'abord à ce moment dont on a parlé tout à l'heure, où une chose devient une marchandise parce qu'elle change de main, c'est-à-dire au moment de la transaction. Et notre argument, c'est que nous reprenons des éléments d'un livre que j'ai écrit avec Laurent Thévenot il y a maintenant plus de 20 ans, presque 30 ans, qui s'appelle « De la justification », où on utilise la notion d'épreuve, et nous disons « ce moment, c'est l'épreuve de la chose ». Et le résultat de cette épreuve, c'est qu'un prix lui échoit. Et donc ce prix, il a quelque chose de réel. Il est ce qui sanctionne cette épreuve. Mais ce prix est circonstanciel. Et d'ailleurs, nos lectures du marketing nous ont montré que, encore plus que nous le pensions, toute chose a une quantité exorbitante de prix différents selon les circonstances de la vente. Cette bouteille peut valoir 50 centimes, 2 euros, 3 euros, selon que vous l'achetez dans une machine automatique, selon que vous l'achetez dans un train, etc. Sans parler, évidemment, des objets de brocante qui n'ont pas de prix à proprement parler. Donc le prix est réel, il a une métrique dans laquelle on peut l'exprimer, mais il est circonstanciel. Et puis il y a un troisième terme qui est la valeur. Il y a l'objet, le prix, la chose, son prix et la valeur. La valeur, c'est très mystérieux. Comme vous le savez, l'économie classique, ayant bien réalisé que les prix étaient circonstanciels, se sont dit, mais il doit bien y avoir quelque chose qui est plus stable, plus fortement attaché aux objets et qui est leur valeur. Et c'était la position de Smith, de Ricardo, et qu'a repris Marx en cherchant dans le travail à déterminer la valeur d'une chose. Comme vous le savez également, il y a une quantité de débats là-dessus, il est très difficile de déterminer une métrique spécifique de la valeur qui serait différente du prix. Ce qui fait que ce problème a embarrassé les néoclassiques, qui a amené une espèce de subjectivisation, ça serait un long débat, de la question de la valeur. Alors nous prenons le problème justement dans une logique pragmatique. Qu'est-ce qui se passe ? Quelque chose change de main. Dans la plupart des cas, quand j'achète un stylo, un point de bic, je ne m'occupe pas trop de la valeur de la chose. Je prends le prix, j'en ai besoin. Dans quel cas est-ce qu'on va faire référence à la valeur ? C'est en cela que notre approche est pragmatique. Quand est-ce que la valeur va intervenir dans l'action ? Quand on veut critiquer le prix ou quand on veut justifier le prix. Si je vous dis... Comment t'as acheté ce mauvais stylo qui marche pas bien 100 euros ? Oh ben écoute, si tu l'avais acheté dans telle boutique, tu l'aurais eu à 3 fois moins. Ou quand vous faites de la publicité pour ce stylo, vous dites, mais il est sans valeur, votre héritier écrira encore, votre petit-fils avec. Bon, vous allez justifier son prix. Et donc, c'est de cette façon. Mais cela nous a amené à la seconde partie du travail qui est structural, parce que pour faire cette critique et cette justification des prix, il faut des arguments, et ces arguments ne peuvent pas être les mêmes pour une Porsche d'occasion dans laquelle est rentrée qu'a utilisé Mel Ferrer dans tel film.
Ou Mick Jagger.
Quoi ?
Ou Mick Jagger.
Qui ?
Un chanteur Jagger. Oui.
Voilà, et pour... ma vieille Twingo que j'essaie de vendre à bas prix.
Quoique.
Et donc, c'est à ce moment-là que nous avons essayé de dégager les structures argumentatives des différents types de valeurs pour différents types de marchandises, et nous avons essayé de montrer comment on pouvait les organiser selon un groupe de transformation au sens de Lévi-Strauss.
Alors, pour terminer ce petit échange, il y a une dimension politique, il me semble, dans l'ouvrage, notamment vers la fin,
puisque critique de la marchandise, moi je comprends, c'est critique du capitalisme et de la capacité qu'il a en permanence, au fond, à étendre le règne de la marchandise sur le monde et à transformer le monde en réalité marchande, d'une certaine manière, en trouvant à chaque fois des nouvelles manières de faire. Alors, je ne sais pas si vous serez d'accord, mais il me semble que cette inquiétude de cette extension du domaine de la marchandise était déjà formulée par l'école de Francfort au début du XXe siècle, s'agissant de la culture. Quand la culture de masse est arrivée, l'industrialisation de la culture, ça leur avait semblé une étape supplémentaire d'extension du domaine de la marchandise. Et donc de menace sur l'humanité, d'une certaine manière. Sauf que, d'un point de vue politique, ils avaient, au fond, ils étaient très démunis. Ils observaient, c'était vraiment sur le bord de la falaise, et qu'est-ce qui va se passer ? Il me semble que vous introduisez, malgré tout, un petit peu de capacité d'action, à la fin. Et alors, que je résumerai en trois termes, vous me direz si j'ai bien lu, au fond, les points d'appui d'une résistance, ou en tout cas d'une... contestation ou d'une critique de cette marchandisation, de cette nouvelle économie, j'ai retenu trois mots qui seraient le premier l'étonnement, le deuxième l'ironie et le troisième l'enquête. Alors est-ce que vous pourriez en dire plus sur ces points d'appui d'une action qui irait à l'encontre de cette dynamique de marchandisation du monde par le capitalisme ?
D'abord, rappeler que une grande différence avec les théories de l'école de Francfort par rapport à la culture, ou qu'on va retrouver chez un auteur comme David Harvey, avec un géographe marxien, c'est qu'ils ont précisément une conception du capitalisme qui uniformise la culture. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, nous, on montre au contraire que ça exploite les différences pour faire du profit. Donc ça, c'est quand même une différence très importante. Et il y a une dimension politique du livre qui est que on a voulu, si vous voulez, un des embarras qu'on a quand il y a des questions politiques qui sont posées par rapport à des types d'engagement, par exemple, c'est que la référence semble être toujours ou très fréquemment, en tout cas, à gauche notamment, le monde industriel. Sans pour autant, par exemple, que les gens, en tout cas, par exemple à Paris, connaissent des ouvriers ou qu'ils n'en aient même jamais rencontrés, et en tout cas chez les jeunes. Et donc, on s'est dit, mais comment en même temps, tous ces gens, il y a bien des gens précaires, etc. Quel est leur monde ? Et donc, un des objectifs du livre, c'était de décrire ce monde dans lequel ils sont plongés, pour qu'ils aient aussi des outils théoriques qui puissent mobiliser pour apporter une critique, en fait, une critique politique. Et donc, ça c'est un des objectifs du livre, qui n'est pas évident, parce que les gens qui sont plongés dans ce type d'économie, ils sont tellement dedans qu'ils ne la voient pas. Et ils ne sont pas prêts à la voir, forcément. Et donc, d'où le fait que peut-être que parfois le livre semble redondant, mais disons, en tout cas, pour bien montrer la démonstration, l'accomplir jusqu'au bout, en fait.
C'est ce que vous appelez les limites de l'expérience, c'est-à-dire les difficultés qu'il peut y avoir, précisément, à avoir disposer de points d'appui un peu surplombants, qui permettent d'expliquer des choses qui, se présentant d'ordinaire, au fond, ont peu de sens.
Tout à fait. Ça ramène à ce qu'on disait tout à l'heure sur le lien entre pragmatique et structure. Nous utilisons structure dans deux sens, celui de structure cognitive qui nous permet de nous repérer dans le monde, et celui de ce qu'on appelle structuralisme systémique, c'est-à-dire l'analyse des grands récits, comme quand j'ai parlé tout à l'heure de l'évolution des taux de profit dans le capitalisme, qui permettent d'éclairer des situations dans lesquelles les personnes sont plongées, mais qu'elles ne peuvent pas atteindre depuis l'endroit où elles sont, si on ne leur apporte pas une connaissance dessus. Mais ça renvoie, au fond, à ta question sur la critique du capitalisme. Une question qu'on peut se poser quand même, c'est qu'au fond, qu'est-ce qui est avant surtout critiquable dans le capitalisme ? Dans la thématique de la critique de la marchandisation, qui a été celle de l'école de Francfort, notamment, qui a en fait une très lourde, très ancienne racine chrétienne, qu'on retrouve quasiment chez les pères de l'Église, qui a été très importante chez les catholiques mi-révoltés, mi-intégristes, de la fin du XIXe, chez Bernanos, par exemple, et qui, au fond, a une base spiritualiste. Il y a des choses spirituelles, il y a des choses matérielles. Si on vend ce qui est spirituel, comme la culture, on prostitue, c'est souvent le terme utilisé, on prostitue les valeurs les plus hautes. Et donc, c'est une critique moraliste de la marchandisation. Ça n'a pas été notre point de vue, parce qu'on essaie en général, d'ailleurs, de ne pas prendre des positions moralistes dans nos analyses de sociologues. Mais on s'est dit, au fond, ce qui est critiquable dans le capitalisme, c'est pas le marché. On a suivi beaucoup Braudel. On avait trois grands maîtres en écrivant. On avait Marx, Lévi-Strauss et Braudel. Braudel montre bien qu'il y a toujours eu des marchés. On ne peut pas imaginer de société sans marché. C'est que le profit... Mais le profit, est-ce que c'est mauvais le profit ? Non. Au fond, Marx dit il y a du profit. Mais normalement, et c'est le mystère que Marx cherche à résoudre, ce profit devrait s'atténuer, s'éliminer quand les marchandises circulent entre tous les agents. Mais le profit s'accumule dans certains centres de profit, entre certaines mains et dans certains lieux. Et donc, c'est la question qui nous a intéressés, qui est la question marxiste par excellence. Et Marx donne une réponse que tu connais aussi bien, sinon mieux que moi, qui est celle de la plus-value obtenue sur le travail qui n'est pas payé, toutes les heures de travail ne sont pas payées, etc. Et nous admettons bien sûr cette interprétation, mais nous lui avons ajouté une autre façon de concevoir le profit qui est très bien ajustée à l'économie de l'enrichissement et qu'on est allé chercher chez Braudel, qui est le profit qui s'obtient par un déplacement et qui suppose un autre type d'inégalité, un petit peu, si tu veux revenir au nouvel esprit, comme les mobiles et les immobiles, entre les acteurs qui connaissent un marché local et des acteurs qui sont capables de connaître et de surmonter des marchés distants. Cette belle ville de Bordeaux, comme tu sais, a tiré une grande partie de sa fortune, comme Nantes, du commerce triangulaire. Eh bien, le commerce triangulaire, c'est-à-dire on apprêtait des bateaux exprès pour ça, avec de la marchandise pour les rois de l'Ouest africain qui se livraient à la capture d'esclaves et qui, en échange de ces marchandises, vendaient des esclaves, qui étaient transportés, il y avait 20% de morts pendant le voyage, qui étaient transportés dans les colonies américaines et qui revenaient avec du luxe, avec de la marchandise de luxe, qui était revendue à Bordeaux, à Paris, à Berlin, n'importe où. Et évidemment, ça suppose des acteurs qui peuvent connaître le prix des marchandises dans différents marchés. Braudel prend l'exemple du poivre. Vous achetez du poivre en Inde, vous l'achetez à son prix, c'est pas des voleurs, à son prix local, et puis vous le revendez, c'est un produit de luxe, à Paris, à un autre prix qui est aussi le prix local, mais qui n'est pas du tout le même. Et donc, c'est le déplacement. Et nous ne sommes pas loin de penser, Braudel dit, il peut y avoir du capitalisme sans industrie. Et nous ne sommes pas loin de penser que la capacité de jouer des déplacements est une des caractéristiques, et donc des différentiels, et donc des différences, est une des caractéristiques centrales du capitalisme. Eh bien, dans l'économie de l'enrichissement, ce déplacement est tout à fait important. Vous avez un parfum marqué du nom d'une marque très ancienne, on peut la montrer avec des dames 1900, tout ce que vous voulez. Vous faites la fête discrètement fabriquée en Inde, mais vous ramenez ça, c'est enveloppé dans une boutique à Paris, c'est revendu dans une boutique en Chine, donc c'est déplacé, beaucoup plus cher. Et puis il y a des choses qu'on ne peut pas déplacer, par exemple Notre-Dame, on ne peut pas le déplacer, mais on peut importer des touristes. Et donc nous nous sommes beaucoup intéressés au fait, qui intéresse très peu les sociologues, bizarrement, que la France est le pays au monde où le nombre des touristes est le plus important, et Paris, la ville du monde où le nombre des touristes est le plus important. Quand vous lisez en France, par des sociologues français sur le tourisme, vous lisez le plus souvent des choses sur oh, ces touristes français qui vont dans des pays exotiques qu'ils méprisent. Mais non, c'est nous les indigènes. C'est nous qu'on vient voir de partout, et nous sommes d'accord parce que c'est une source d'enrichissement extrêmement importante, qui est collective d'ailleurs. Le tourisme est une industrie très étrange où il faut un pouvoir qui sache discipliner une population pour qu'elle soit gentille avec les touristes.
Merci beaucoup.